Quasiment moins 4% pour Unibail Rodamco Westfield sur le CAC 40 et en dehors de l'indice phare, eh bien, deux autres exploitants de centres commerciaux, Mercialys et Klépierre, ont également souffert. C'était Marjorie Ancelot d'Investir.fr.
Merci Marjorie, merci à vous tous d'avoir suivi ce journal dont je vous rappelle le principal titre. En France, 38 nouveaux départements et la Polynésie vont être soumis dès samedi à un couvre-feu pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus. Annonce faite ce soir par le Premier ministre Jean Castex lors d'une conférence de presse. Merci de nous écouter, il est 18h10 à Paris.
Radio G 101.5 FM.
Soyez bonsoir et bienvenue à l'écoute de l'Oreille Curieuse, la quotidienne consacrée aux actualités culturelles et locales d'un département bientôt couvre-feuté. Car j'imagine que vous n'êtes pas passé à côté de cette information. Dans le Maine-et-Loire, nos vies s'apprêtent à être, en partie du moins, entre parenthèses, de 21h à 6h. Je crois que ça me rend un peu triste, en tout cas ça me réjouit pas follement. Bon, on va faire avec et attention dicton. Le pire n'est jamais certain. Alors, qui nous écoute, qui est avec nous ici et maintenant, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, même si on n'a aucune idée de ce que nous réservent les prochaines semaines, on va faire en sorte de réaliser les plus belles et les plus joyeuses des émissions. Sans doute qu'il y aura moins de spectacles le soir annoncé et sans doute aussi que la grille de Radio G va être bousculée et bouleversée. On verra ça ensemble dans les heures et jours qui viennent. Pour l'heure, dans l'émission de ce soir, vous entendrez de la musique, puisque Mehdi a eu la bonne idée de venir en studio avec une chronique consacrée à Ryuichi Sakamoto. Il y aura deux reportages consacrés au dispositif du service civique. Et bien sûr, vous l'attendiez, le retour de la chronique Science, Nature et Environnement de Benoît. Une chronique qui me mène à la deuxième citation du jour que je partage avec vous. Elle est d'Albert Camus, clamée de toutes parts, et pas toujours avec les bonnes intentions, mais je ne peux que vous inviter à faire vôtre, en ces temps médiatiquement confus, de cette phrase « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». L'émission a été plus ou moins préparée, enfin quand même, par moi-même, Annelie, et on commence en musique pour se mettre du baume au cœur avec un autre que moi, de Fishback.
Droite, gauche, bras de fer, on se défend, mais t'as vu là.
train traverse les déserts, les glaciers de l'Arctique. On laisse ses têtes en l'air, nos mains se serrer à l'envers dans la panique. Hey, qui nous retrouve, on ne se retrouve pas. Et qu'ils avouent, j'ai jamais dit ça. Je découvre un autre que moi.
Et maintenant, je suis heureuse d'accueillir une nouvelle voix de l'oreille curieuse. Bonsoir Mehdi.
Bonsoir, merci de m'avoir invité, c'est gentil.
Que de joie partagée.
Alors, bonjour à vous, mes chers auditeurs, auditrices. Je me présente Mehdi, alias Andrea Maya, de mon nom d'artiste. Beatmaker depuis 7 ans et passionné de musique depuis toujours, je suis très heureux de participer à l'émission L'oreille curieuse. Comme vous l'aurez sans doute compris, je ne vous parlerai pas de jardinage pendant cette chronique, mais plutôt de musique, et on partira vers le pays du soleil levant à la découverte du célèbre compositeur Ryuichi Sakamoto. J'avais très envie de vous parler de ce compositeur car je l'écoute énormément et je peux donc vous affirmer et même vous confirmer son génie, et je le prouverai, j'espère, d'une part en vous parlant de son histoire, sa carrière, son œuvre, et pour illustrer tout ça, rien de mieux que quelques extraits musicaux à vous faire déguster, car oui, avec Sakamoto, on parlera bien de déguster la musique. Donc une présentation de celui-ci. Il est né le 17 janvier 1952 à Tokyo. Il est musicien, pianiste, compositeur, producteur et aussi acteur. Il a commencé très tôt le piano et la composition. Il a été inspiré par le pop rock avec des artistes comme par exemple les Beatles ou les Rolling Stones, excusez-moi. Et aussi beaucoup par la musique impressionniste de notre légende Claude Debussy en France et le romantisme de Frédéric Chopin, où on en ressentira d'ailleurs l'inspiration dans beaucoup de ses œuvres. Ryuichi Sakamoto suivra des cours à l'Université des Beaux-Arts et Musique de Tokyo, où il étudiera la composition, la musique électronique et ethnique. Ses premières œuvres seront plus tournées sur l'électronique avec son premier album Thousand Knives, enregistré en 1978. C'est un album aux sonorités funk, avec l'utilisation de synthés des années 80. Donc cet album est un emblème de sa carrière, mais ne sera pas le plus représentatif de son œuvre. Et sans plus attendre, voici un extrait de cet album avec le titre I'll Be There en feat avec la chanteuse japonaise Akiko Yano. Voilà, on ressent clairement la vibe funk, soul, R&B des années 80. Après, il y a plusieurs styles mélangés dans cet album, donc je vous invite vraiment à l'écouter, il est super intéressant. On continue avec la vie de Sakamoto. Donc, pendant cette même période, il deviendra membre du trio japonais Yellow Magic Orchestra, groupe de renommée internationale sur la scène électronique et au Japon. Ils seront très inspirés par Kraftwerk. Kraftwerk, qui est un groupe allemand qui a joué un rôle très important dans l'évolution de la musique électronique. Je vous invite vraiment à écouter, c'est super cool.
C'est historique, ouais.
Très historique, ouais, carrément. Et voici le morceau Tongpu du Yellow Magic Orchestra. Donc le style du Yellow Magic Orchestra est très expérimental. Donc là, j'ai choisi plutôt un son qui était pas tellement expérimental, mais je vous invite vraiment à écouter. Il y a des idées vachement intéressantes. Donc on est très loin du style personnel de Sakamoto. Et on ressent bien ici que Ryuichi Sakamoto se cherchait dans sa musicalité. Et son bout de carrière dans ce groupe lui a permis de tester beaucoup de choses qui l'ont fait certainement mûrir. Le groupe se séparera progressivement à partir de 1983 et chacun commencera à développer sa carrière solo et nous, on continuera de suivre l'aventure de Sakamoto. L'année 1983 sera une année très importante dans la carrière de Ryuichi Sakamoto car c'est lui qui composera toutes les bandes originales du film Furio. Donc Furio, c'est un film dramatique britanno-néo-zélando-japonais.
Plein de productions là-dedans.
Donc sur le thème des prisonniers de guerre avec David Bowie en tant que personnage principal. La BO du film a donc gagné quelques prix, dont le prix de la meilleure bande originale durant la 37e cérémonie des British Academy Film Awards. Donc c'est l'équivalent en Angleterre. Non, c'est l'équivalent des Césars en France et des Oscars aux États-Unis et donc en Angleterre, comme vous l'avez compris.
Prestigieux, quoi.
Ouais, super prestigieux. Et voici donc un titre de la BO qui s'appelle Merry Christmas, Mr. Lawrence. Comme ça, vous allez vraiment comprendre pourquoi la BO a reçu des prix. Et sortez vos mouchoirs.
Et alors, on débute pas depuis le début parce que je suis désolée, on n'a pas le temps, mais c'est beau quand même.
Magnifique. Et suite à ce succès, ça va vraiment lui apporter beaucoup de contacts. Il va être appelé pour composer à composer beaucoup pour les musiques de films, en fait. Et pour citer quelques exemples, il a fait la bande originale du Dernier Empereur, sortie en 1987. Plus récemment, il a fait la BO de The Revenant avec Leonardo DiCaprio. C'est sorti en la classe en 2015. Et il a aussi fait une BO pour un épisode de la dernière saison de Black Mirror en 2019. L'épisode s'appelle Smithereen, pour ceux qui voudraient retrouver. Ce qu'on peut observer dans la carrière musicale de Sakamoto, c'est qu'il aime vraiment beaucoup expérimenter tant dans la musique électronique que dans la musique acoustique. Et là, c'est pour cela que depuis 1984 jusqu'à aujourd'hui, il a sorti une quantité d'EP, albums très différents les uns des autres en fait. Donc sa discographie, c'est vraiment une véritable encyclopédie avec 247 sorties au total, que ce soit album, EP, collaboration. Donc c'est vraiment colossal. Mon dernier extrait sera tiré de l'album A Day in New York, sorti en 2003. C'est un album en commun avec le groupe brésilien Morellenbaum, constitué de Jacques Morellenbaum, violoncelliste, et son épouse Paula, chanteuse, qui a été choriste d'Antonio Carlos Jobim jusqu'à sa mort en 1994 à New York. Et d'ailleurs, cet album a été enregistré justement pour rendre hommage à celui-ci. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, il est fondateur de la Bossa Nova. Et il a lui-même été inspiré par notre Henri Salvador national.
Allez, on écoute une version live.
Voici donc le titre.
Pardon, je l'ai envoyé direct. Desafinado. Se você disser que eu desafino, amor.
Ryuichi Sakamoto est un compositeur qui aime expérimenter la musique sous toutes ses formes. Il se tente à composer plusieurs genres différents en y ajoutant sa touche personnelle. Il est autant amateur de musique électronique expérimentale que de musique classique et ethnique, ce qui rend son style si particulier et défini. Donc je vous conseille vraiment de piocher dans sa discographie et pourquoi pas même tout écouter pour ceux qui seraient tombés amoureux.
Qui n'auront rien à faire le soir en rentrant chez eux.
Voilà.
Idée.
Et donc aujourd'hui il a 68 ans et je pense qu'il nous réserve encore quelques surprises. C'est la fin de la chronique. Je vous remercie, c'était un plaisir de faire découvrir une partie du personnage Ryuichi Sakamoto sur l'oreille curieuse.
Merci.
Je vous dis à bientôt.
Merci beaucoup Mehdi.
Merci à toi.
Et oui, à bientôt. Et moi je découvrais ce compositeur, donc je suis très heureuse de l'avoir découvert, ce qu'on apprend tout le temps. On va poursuivre l'oreille curieuse, vous êtes bien sûr sur le 101.5 de Radio G. Et maintenant on part dans la région des Pays de la Loire, on part écouter des personnes qui nous parlent du dispositif du service civique. Et on va écouter un reportage qui est réalisé par Jade FM, une autre radio associative située à Pornic. Tout est dit dedans, donc je ne vous en dis pas plus.
S'engager de 6 à 12 mois, c'est ce que font les volontaires en service civique. Depuis 2010, des centaines de milliers de jeunes âgés de 16 à 25 ans, voire 30 ans, pour les personnes en situation de handicap, s'engagent au sein d'associations, de fondations, de collectivités territoriales ou encore auprès de services de l'État. 10 ans après la mise en place du dispositif, qu'en pensent celles et ceux qui effectuent ou ont effectué une mission ? et quel constat du côté des structures accueillantes ? Volontaires en service civique, un engagement, des réalités, une production des radios associatives en Pays de la Loire.
Pour la première étape de notre enquête, Chad FM s'est rendu dans deux endroits, le collectif d'artistes Beaux-Arts à Pornic et l'école des Nondales au Clion-sur-Mer. Deux points de vue différents quant à l'emploi d'un jeune en mission de service civique. Madame Papet nous confie que pour l'association Beaux-Arts, gérée par des bénévoles, la question n'a été que brièvement soulevée.
Alors, je le connais un peu, mais pas très bien, pour en avoir entendu parler dans d'autres associations. Nous avons évoqué le fait d'accueillir quelqu'un qui soit engagé volontaire en service civique ou autre. Ce qui nous pose question, c'est le temps que nous aurions à consacrer à sa formation et puis aux demandes qu'on aurait à lui faire. Voilà.
Une meilleure connaissance du dispositif et un accompagnement personnalisé auraient peut-être levé les freins et incité cette association à franchir le pas. Nous continuons avec M. Fouillet, directeur de l'école des Nondales à Pornic, qui recrute en ce moment son deuxième jeune en service civique. En effet, sa première expérience de tuteur est très positive.
Bonjour à Jeanne FM et bienvenue aux Nondales.
Vous êtes responsable d'une école primaire et vous connaissez le dispositif du service civique. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Nous avons accueilli une jeune en service civique l'année dernière sur la mission de contribuer aux actions éducatives et pédagogiques. Ça s'est très bien passé avec elle et nous avions envie de poursuivre l'expérience.
Monsieur Fouillet a obtenu le soutien de l'éducation nationale pour cette démarche a priori compliquée. La mission a été clarifiée en amont. La personne employée a suppléé le personnel auprès d'enfants en situation de handicap.
On a vraiment un interlocuteur au niveau de l'inspection et on pouvait vraiment faire appel à lui. Après, quand j'ai vu que ça fonctionnait bien et que la personne comprenait bien les enjeux de la mission, ça a été facilitant pour tout le monde.
Bonjour, Nathalie Adzem. En classe de moyenne et grande section, à l'école des Nondales.
Oh, bah, les avantages qu'il y en a, c'est que ça leur permet d'être dans les classes à s'occuper des enfants. Ça permet de décompresser un peu les groupes. Il y a toujours un groupe d'encadrés, en fait. Inconvénient, l'année dernière, il n'y en a pas eu. Après, on peut tomber peut-être sur des jeunes qui sont peut-être pas assez matures et qui sont pas trop capables de s'occuper des enfants. Ce n'était pas le cas l'année dernière.
La personne qu'on a reçue l'année dernière, elle avait au début l'envie d'accompagner justement des élèves en situation de handicap, devenir AESH, auxiliaire de vie pour les personnes en situation de handicap. Elle s'est aperçue que ce n'était pas forcément le statut le plus enviable qui soit. Et finalement, sa réflexion a évolué plutôt sur éducateur spécialisé. Donc, on reste dans le domaine du handicap, mais sur quelque chose de plus pérenne.
Oui, puis elle a mûri son projet.
Voilà, exactement. Ouais. Ça a mûri au fil des discussions avec les collègues, les observations en classe, de ce qu'elle a pu voir.
Catherine, institutrice.
Les avantages, c'est qu'on a une aide qui n'est pas négligeable. Ça donne une première expérience aux jeunes. Les inconvénients, c'est que le service civique dure peu de temps, donc le temps de former, c'est déjà terminé pour eux. Donc on ne peut pas renouveler, c'est un peu dommage. Et bon, la rémunération, sans doute aussi. Là, cette année, oui, on va faire sa connaissance la semaine prochaine, je pense.
La personne que nous avons reçue, elle a eu le mérite d'avoir déjà des qualités humaines très intéressantes. Elle était à la fois efficace, discrète, précieuse dans les missions qu'elle avait à mener. Et ça, ça met un peu la barre haut pour la prochaine candidate. Mais...
Merci à Madame Papet et Monsieur Fouillet pour leur accueil. Jade FM reviendra à l'école des Nondales pour la suite de notre enquête, afin de savoir comment se déroule ce nouveau recrutement.
C'était Volontaires en service civique, un engagement, des réalités. Une production des radios de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.
Et maintenant, peut-être que vous allez reconnaître le fabuleux générique et jingle de la chronique Science, Nature et Environnement de Benoît. Salut Benoît.
Salut Annie, bonjour à tous.
Je suis très heureuse de te retrouver à nouveau à l'antenne.
Pareil, c'est un plaisir de revenir ici. Alors ça a été compliqué un peu cette année, mais
particulièrement,
pour plein de raisons, mais on, mieux vaut tard que jamais, comme on dit.
Ouais, puis on a super besoin de parler de la recherche, et enfin moi ça me fait du bien d'entendre des choses précises,
ouais.
Des actualités précises.
Ouais, c'est ça, ouais. Alors après, oui, on a tellement entendu de choses depuis 6 mois, mon Dieu. Mais bon, on va essayer de donner des informations comme d'habitude qui sont à peu près bonnes et vérifiées normalement
et vérifiées.
Mais toute information peut être mise en cause, bien entendu, c'est le principe même de la science.
Très beau départ. Alors avec quelle nouvelle
on va commencer, alors comme d'habitude, par un agenda, mais alors évidemment en ce moment l'agenda il est réduit
à peau.
J'imagine que c'est comme dans le milieu de la culture, hein, bah en fait dans la culture scientifique c'est exactement pareil. Les animations, les médiations, alors ça a quand même lieu, mais c'est difficile, compliqué. Et puis on vient d'apprendre aujourd'hui que on allait être soumis au couvre-feu, donc évidemment toutes les opérations un peu nocturnes. Mmh. Alors je pense, pour ce qui nous concerne ici dans la chronique, la nuit des chercheurs qui a lieu en novembre, eh bien je pense que ça va tomber à l'eau. Bon, ça sera confirmé bien entendu prochainement, mais voilà, il y a c'est compliqué. Alors c'est pour ça qu'il faut continuer vraiment à donner de l'information et à trouver les bonnes sources d'information et pas forcément relayer tout et n'importe quoi. Bon,
ouais,
voilà, c'est un peu la maladie de l'époque.
Oui.
Alors malgré tout, une conférence ce soir qui est prévue le 4 novembre, c'est à 18h30, donc ça sera possible.
C'est jouable.
Il faudra pas que ça finisse trop tôt. C'est dans le cadre d'un cycle de conférences donc qui sont présentées, des conférences présentées à l'Institut Municipal, donc c'est organisé par Terre des Sciences, la Maison de l'Environnement, etc., et différents partenaires. Et la prochaine aura lieu le 4 novembre, donc c'est dans un peu moins de 2 semaines. Mais c'est avant la prochaine chronique, donc c'est pour ça que j'en parle. Elle aura pour thème la transition économique.
Économique ou écologique ?
Eh bien, économique, justement, parce que l'un ne va pas sans l'autre, normalement. Hein. Donc, alors, je te lis, il y a un petit topo qui résume bien le sujet de la conférence. Le schéma linéaire produire, consommer, jeter, donc du système économique traditionnel, a atteint ses limites. Donc l'économie circulaire participe à l'émergence d'un nouveau modèle sobre en carbone et économe en ressources. Donc les gens qui interviendront sont des gens compétents dans ce domaine, hein. On a une personne qui fait partie du CESER, donc le Conseil économique et social et environnemental de la région, mm-hmm. des Pays de la Loire. Un chercheur en management et marketing des systèmes alimentaires alternatifs, donc de l'Université d'Angers. Et voilà, donc tout à fait intéressant. C'est à 18h30 le 4 novembre.
À l'Institut Municipal.
Ouais, c'est ça. Alors par contre, je crois qu'il y a des consignes et il faut s'inscrire à l'avance.
Le mieux, c'est de passer un coup de fil, aller voir sur le site, si ça vous intéresse.
Aller voir comment ça se passe et comment on peut y aller sans problème. Je suis désolé, j'ai de la buée sur mes lunettes. Mais
ouais, c'est hyper galère. C'est toute ma solidarité.
Je vois un peu flou, mais on va s'en sortir, hein, t'inquiète pas. Alors une autre info, j'ai appris ça récemment, j'ai trouvé ça suffisamment intéressant pour le partager avec les auditeurs de Radio G. Ça concerne une marque, c'est un label, une marque, je sais pas trop comment on dit. J'ai trouvé que les gens appellent ça la marque. Donc une marque, il s'agit de la marque Végétal Local. Donc c'est une sorte de marque collective qui est proposée par l'Office français de la biodiversité. Donc ça a été créé en 2015 à l'initiative des conservatoires botaniques nationaux, la fac agroforesterie et l'association Plantes et Cités, donc qui est basée à Angers, me semble-t-il. Donc c'est cette marque, elle propose évidemment, enfin, des semences, des boutures, des plantes ou des arbres issus de collectes en milieu naturel. Donc pourquoi c'est donc quel est l'intérêt? C'est un outil de traçabilité des végétaux sauvages et locaux. Donc pourquoi sauvages? Bien, ces végétaux, donc proposés par la marque Végétal Local, sont issus de collectes en milieu naturel et ils n'ont pas subi de sélection par l'homme ou de croisement. Donc ils sont naturellement présents dans la région d'origine considérée. Mmh. premier élément. Local, eh bien, il s'agit plutôt non pas de région administrative ici, mais de région écologique. On appelle ça une région biogéographique. Donc c'est la région d'origine du végétal, donc celle où il a été collecté. Donc il en a été déterminé 11 régions biogéographiques en France. Et donc ça permet de réintroduire ou dans le cadre d'aménagement ou de sauvegarde de milieu, eh bien d'introduire les bonnes plantes aux bons endroits et garantir la traçabilité de ces végétaux pour aussi conserver leur diversité génétique. Donc on aura ainsi sur le marché des gammes de végétaux adaptées pour la restauration des écosystèmes et les fonctionnalités écologiques. Donc ça me semble tout à fait intéressant dans l'idée justement de remettre un peu de nature, mais alors ça on est à peu près tous d'accord, mais surtout la bonne nature. Évidemment, on voit des plantes, enfin la plupart des plantes qu'on voit dans la nature urbaine, par exemple, hein, ce qu'on appelle entre guillemets la nature urbaine, ne sont pas des plantes locales. Il y a énormément de variétés, de choses qui viennent d'ailleurs ou qui sont croisées avec des variétés locales. Mais enfin,
et comment ça bouleverse les écosystèmes.
Exactement. Donc là, en allant dans ce sens, ça permet d'avoir la flore annexe, mais aussi la faune annexe qui est vraiment adaptée, qui vient du milieu. Et donc, pour restaurer l'écosystème, c'est nettement mieux. Donc, ça me semblait intéressant de faire le focus un peu sur cette marque, qui est donc toujours propriété de l'Office français de la biodiversité. Donc, il y a eu un appel à projet, hein, il y a presque 10 ans, et ça a été travaillé avec un certain nombre de partenaires, plus de 150 scientifiques, des producteurs aussi, des utilisateurs des végétaux, etc. Donc, à surveiller, essayer de repérer cela chez les fournisseurs de végétaux. Alors, maintenant, on passe aux petites actus scientifiques.
Ouais.
Alors, la première, le monde naturel nous émerveille toujours et j'ai pensé intéressant de relayer ce nouveau record battu par un oiseau, record de la plus longue migration. Donc, il est détenu par une barge rousse.
Alors là, je ne sais pas à quoi ça ressemble.
Alors, la barge rousse, c'est un oiseau limicole. Alors, limicole, ça veut dire qui apprécie et qui se nourrit sur les milieux humides, notamment, ça peut être les bords de mer, les vasières. Donc, on a des barges en Maine-et-Loire au moment des migrations, mais ce n'est pas les barges rousses, c'est plus souvent la barge à queue noire. Elle est chez nous, là, alors que la barge rousse, elle vit en Amérique du Nord et elle migre dans l'hémisphère sud. Et alors, figure-toi que celle-ci, elle a pu parcourir en 11 jours 12 200 kilomètres. Donc, c'est le record battu.
Tu veux dire c'est la plus rapide ?
Alors, la plus rapide, la plus endurante aussi, sûrement. Elle a volé à une moyenne de... Enfin, pas une moyenne, mais avec des pointes à 90 km/h, donc pendant presque 11 jours. Donc, elle était équipée d'une balise, hein, une balise. Alors,
rallye des oiseaux migrateurs.
C'est ça, il y avait une petite balise satellite de 5 grammes qui était dans le bas de son dos. Et donc, elle a traversé l'Alaska jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Donc tout le Pacifique, hein, tu
effectivement.
Vois.
Effectivement, ah ouais.
Pendant 11 jours, sans s'arrêter, avec des pointes à 90 km/h.
Mais elle fait des pauses pour dormir ?
Non, aucune pause. Alors c'est extraordinaire, ça je vais expliquer évidemment. Faut pas faire ça pour les départs en vacances. Hein. C'est en ce moment, il y a les gens qui partent et tout. Non, surtout vous amusez pas à ça. Nous on n'est pas équipés, hein, les êtres humains sont pas équipés pour ça. On est barge, mais on n'est pas barge roue. Notamment, elle peut dormir. Il y a une moitié de son cerveau qui peut
qui se repose et l'autre qui vole.
Qui peut se reposer. Alors c'est le cas. En tout cas, elle a aussi des ailes, un profil aérodynamique extraordinaire. Elle peut faire de très très grosses réserves en nourriture et sa taille elle peut doubler en prévision de ce long vol. Donc,
pour faire des stocks de nourriture.
Bien sûr, c'est anticipé. Et pendant tout le trajet, elle consomme cette énergie et même ses organes internes sont capables de rétrécir pour alléger l'animal et l'organisme entier. Donc et réduire la prise au vent. Donc c'est vraiment une des adaptations extraordinaires. Donc a priori quand même, on parlait de sommeil, elle arrive à ne pas dormir. Donc pendant aussi longtemps, donc ça, il semblerait que ce soit une adaptation assez remarquable.
Ouais, c'est hyper impressionnant.
Il faut quand même préciser que cet oiseau, pratique le vol battu. Donc c'est le record pour les oiseaux qui pratiquent le vol battu.
C'est le vol à plusieurs ?
Non, le vol battu, c'est le vol en battant des ailes. Ah, alors, elle plane pas, en fait.
Je fais le mime, mais vous pouvez pas voir.
Elle ne plane pas. Par contre, il y a d'autres espèces. Alors, on pense à la star du vol, c'est les martinets. Les martinets, alors qu'ils sont communs chez nous, hein, ils arrivent tous les ans au printemps, ils repartent à la fin de la belle saison. Eux, alors là, c'est direct, hein, ils sont nés, ils sortent du nid, et là, c'est parti pour entre au moins 2 ans sans se poser. Donc voilà, alors les martinets, pour le coup, eux, ne s'arrêtent pas. C'est vrai, on les voit jouer en soirée l'été. Ils font beaucoup de bruit, ils volent tout le temps. Et puis à un moment dans la nuit, on les entend plus. En fait, ils montent très haut en altitude. Et là, ils pratiquent un vol plané. Et ils dorment leur cerveau s'endort par moitié, en fait. Les hémisphères se reposent. Donc, ils sont toujours semi-éveillés, mais ça permet à l'organisme de se reposer. Donc, eux, c'est vraiment les champions. Ensuite, on a un autre oiseau qui pratique le vol battu et plané, qui est assez remarquable, c'est la sterne fuligineuse. Donc c'est une des espèces d'oiseaux marins les plus abondants sous les tropiques. Il y a 60 à 80 millions d'individus sur Terre. Donc elle volerait entre 2 et 5 ans sans se poser.
Donc, comment imaginer ça?
C'est assez remarquable. Alors des fois elle se pose de temps en temps dans l'eau, mais sinon ça se pose pas, quoi. Donc voilà, le monde merveilleux des oiseaux, record battu pour ce soir.
Ouais, puis la barge rousse est très belle, j'ai fait une
recherche. Oui, c'est un oiseau magnifique. Mais allez voir déjà les barges à queue noire, elles reviendront. Elles ont pas de confinement ou ni de couvre-feu, donc elles seront là au printemps ou pour la pause hivernale avant de rejoindre leur terre d'estive. Mm-hmm. Donc elles vont se nourrir dans les basses vallées angevines. Donc c'est des endroits un peu remarquables au niveau naturel autour d'Angers. Donc allez voir les barges qui se posent par centaines, hein, donc pour des haltes migratoires. Si on a encore un peu de temps,
oui, on peut.
C'est le cas. Alors là, c'est au choix. Tu m'arrêtes quand tu veux, mais
on va sans doute être en retard. Mais
comme
bon.
Tous les ans, on parle des prix Ig Nobel, les prix Nobel ignobles entre guillemets.
De la science un peu loufoque.
Voilà, c'est
mais très sérieuse.
Voilà, c'est ça. C'est la science sérieuse qui se prend pas au sérieux. C'est rire de façon sérieuse. Effectivement, comme on le dit tous les ans, il y a des sujets de recherche qui peuvent paraître parfois complètement loufoques, mais qui ont souvent des implications et des applications utiles. Donc cette année, il y a plusieurs lauréats, donc je vais en citer quelques-uns. Alors peut-être que dans les chroniques suivantes, on fera le focus sur... mais là, rien que les noms des recherches et les résultats des recherches sont assez évocateurs. Donc il y a le prix d'acoustique a été décerné par un collectif de chercheurs. Alors en général ils sont plusieurs, hein. C'est des équipes internationales et parfois pluridisciplinaires. Donc le prix d'acoustique concerne une équipe qui a travaillé et le titre de l'article, c'est un alligator chinois dans l'Héliox, fréquence formante chez un crocodilien. Alors en fait l'idée, c'est compliqué
très
comme
obscur,
ça,
hein. Là, ouais.
Mais c'est d'avoir incité une femelle alligator chinoise à beugler dans une chambre hermétique qu'on avait remplie d'air enrichi en hélium. Je sais pas si je vais te rappeler l'anecdote, mais dans Le Grand Bleu, version longue, je crois, à un moment donné, les deux héros se retrouvent dans un caisson, un sous-marin, et en fait, l'air est enrichi en hélium parce que quand on va en profondeur à haute pression, c'est préférable, et du coup, ça change la voix. Et tu sais que si tu respires
de l'hélium,
de ballon de baudruche par exemple, et bien tout d'un coup, pendant l'instant où tu vas expirer ça, ça change la fréquence de ta voix et ça passe tout à fait dans les aigus.
Ça fait une petite voix de dessin animé.
Voilà. Ouais. Et bien ceux-là, ils ont essayé avec l'alligator. Bon. Alors je sais pas si le fichier son existe, mais allez chercher ça. J'ai pas pris le temps de le faire.
Et sans doute que ça a une vraie utilité dans la recherche, quoi. C'était pas juste pour faire une blague à cet alligator.
Alors au final, sans doute. Hein, après, c'est intéressant de voir si le crocodile réagit de la même façon par rapport à ses organes vocaux que l'homme. Un prix de psychologie a été décerné à Miranda Giacomini et Nicolas Roule pour avoir mis au point une méthode d'identification des narcissiques en examinant leurs sourcils.
Ça, c'est intéressant.
Donc, alors attention, vous regardez dans le miroir et vos sourcils. Et c'est pareil, j'ai pas vu l'article, mais il y a peut-être un guide qui dit si on est plus ou moins narcissique en fonction de la forme et de nos sourcils. Donc
puis,
voilà,
oui, il y a faut savoir qu'est-ce que ça veut dire d'être narcissique et si c'est grave ou pas.
Oui, alors narcissique, non, je pense pas que c'est grave, c'est plutôt gênant pour les autres parfois. Mais c'est pas forcément grave pour les gens qui le sont. Le prix de physique a été déterminé à Ivan Maskinov et Andriy Potofsky pour avoir déterminé expérimentalement ce qui arrive à la forme d'un ver de terre vivant quand on fait vibrer le ver de terre à très haute fréquence. Bon là, attention, attention aux défenseurs des droits d'animaux. Alors, j'ai pas regardé là l'article, je sais pas de quoi elle retourne, mais alors juste le thème, c'est assez pointu. Alors il y en a comme ça toute une ribambelle. Alors un dernier qui m'a fait le plus rire, le prix d'entomologie à un chercheur américain, Richard Vetter, donc pour avoir recueilli des preuves que de nombreux entomologistes, donc les scientifiques qui étudient les insectes, ont peur des araignées. Qui en fait ne sont pas des insectes, les araignées, bien entendu.
Donc ils sont tranquilles.
Ça, c'est, je trouve ça très très futé et très malin comme étude. Donc c'est à méditer. Et là, j'irai voir ce qu'il en est précisément. Voilà. Alors un dernier pour la route,
oui,
le prix de médecine. Donc à une équipe qui l'article s'intitule Misophonie de points critères diagnostiques pour un nouveau trouble psychiatrique.
Ça fait un peu peur.
Alors la misophonie, alors l'équipe a déterminé comment faire les diagnostics de ce problème médical, donc qui est méconnu, qui s'appelle la misophonie. Et qu'est-ce que c'est la misophonie? C'est la détresse d'entendre d'autres personnes faire des bruits de mastication.
Ah, mais pas au niveau anecdotique, mais quand ça devient vraiment...
pathologique. Ouais, quand pathologique. On supporte plus entendre les gens mâcher, c'est vrai que c'est pas un bruit très agréable. Quand on mange avec quelqu'un qui mange, un, la bouche ouverte, et deux, qui fait beaucoup de bruit, c'est juste insupportable. Donc là, il a dû élaborer des critères de diagnostic. Donc voilà, et plus, il y a une thérapie... cognito-comportemental pour soigner les gens qui supportent plus ça. Donc c'est terrible.
Pour que ce soit vivable, quoi.
Exactement. Donc je pense là aussi, ça pourra peut-être sauver des couples, on ne sait pas.
C'est tout ce qu'on leur souhaite.
Exactement. Donc voilà pour ces infos un peu décalées, mais toujours scientifiques.
Et très sérieuses.
Et très sérieuses.
Est-ce que tu as d'autres actus?
Non, on se retrouve dans 15 jours si tout va bien.
Bah, ça tombe bien parce qu'en fait, on est déjà un peu en retard. Mais pas trop.
C'est parfait.
Doucement en retard. Merci beaucoup, Benoît. Et oui, dans 15 jours, on sera le 5 novembre. Merci à vous d'avoir écouté l'émission. Si vous avez envie de la réécouter, parce que vous êtes déjà fan de tout ce qu'on vous a dit, elle est en ligne sur le site de Radio G, à la page de l'Oreille Curieuse. Et on va mettre en ligne les infos sur les podcasts. Petit à petit, progressivement. On se retrouve lundi à 18h10 et nous serons avec le collectif Blast et l'artiste plasticien Karl Marquis. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire par mail à prog.radioG@gmail.com pour nous demander des conseils pour bien vivre votre week-end ou votre couvre-feu, ou bien sur les réseaux sociaux de Radio G, on vous répondra avec plaisir. Je vous souhaite une très bonne soirée, un bon week-end par avance. À 19h, c'est Droit Devant, l'émission d'Amnesty International. Et là, vous retrouvez la programmation musicale de Radio G avec Massive Attack. Out of your chest. Let
101.5 FM.